À voix nue. Cette semaine, Dany Le Gras rencontre Jacques Berès. Ce soir, toutes les guerres du monde.
Bonsoir Jacques Berès.
Bonsoir.
Vous n'avez jamais cessé d'arpenter le monde, des conflits en catastrophe, toujours avec votre trousse à la main. Vous êtes ce qu'on appelle les French Doctor par excellence, chirurgien de guerre, dernier de votre génération à continuer d'opérer sur tous les conflits. Vous êtes encore parti récemment au Bangladesh pour soigner des réfugiés Rohingyas. Vous êtes très engagé auprès de l'association France Syrie Démocratie, dont vous êtes le président. Vous avez plus de 160 missions au compteur. Nous ne pouvons évidemment pas parler de toutes ces missions. Alors j'aimerais évoquer avec vous celles qui vous ont particulièrement marqué, la Tchétchénie, les génocides au Rwanda, la Syrie.
Moi, je suis systématiquement, viscéralement, émotionnellement du côté des peuples martyrs, évidemment. Et parmi ceux-ci, il y a en tout premier plan les Tchétchènes et les Kurdes, bien entendu, et les Palestiniens aussi, d'une certaine façon. Ne pas oublier, c'est quand même très, très important. Les Palestiniens, sous toutes ses formes, j'y suis allé beaucoup. Et la bande de Gaza est un problème préoccupant, c'est la plus grande prison du monde à ciel ouvert. Avant, pendant un moment, c'était le Kosovo, mais enfin, depuis la chute de Milosevic, le record, c'est quand même Gaza, c'est presque 2 millions d'habitants, prison à ciel ouvert. La Tchétchénie, c'est un peuple martyr parce que déjà en Staline a déporté l'ensemble du peuple tchétchène, ce qui est une vaste opération logistique, en Sibérie, dans le nord de la Sibérie. Et ils sont restés, en mourant beaucoup, les survivants, je ne sais pas ce que c'était, mais enfin il y a eu des centaines de milliers de morts sur un petit peuple qui faisait jamais plus de 2 millions au total. Et il n'y a que Khrouchtchev qui a permis le retour des Tchétchènes dans leur, sur leur sol. Donc c'est une énorme catastrophe à l'échelle de tout un peuple. C'est pas certains, les privilégiés, non, tout le monde exporté, balancé au nord de la Sibérie au motif qu'ils auraient peut-être pas collaboré avec les nazis, mais qu'ils n'avaient pas manifesté la fougue patriotique suffisante pour combattre, enfin bon. Il n'y a aucune collaboration tchétchène-Allemagne documentée, mais bon, c'était l'idée de Staline, donc voilà. Et ils ne sont revenus qu'avec Khrouchtchev. Et maintenant, depuis 1995, il y a ces guerres de Tchétchénie. Donc, petit peuple avec une velléité d'indépendance. Le premier président autoproclamé de la Tchétchénie, de mémoire, je crois qu'il s'appelait Doudaïev, pas oublier que c'était quand même un officier normal, règlement de l'armée rouge. Hein. Voilà, et ce désir d'indépendance, cette tentative d'indépendance autoproclamée a été réprimée violemment, écrasée. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que quelque chose m'avait profondément choqué, parce que c'était une torture, à mon avis, inédite, que les Russes ont mis au point, qui s'appelle le fagotage. Alors, peut-être vous ne connaissez pas le fagotage. Vous voyez comment c'est fait un fagot de bois?
Oui.
C'est des petits morceaux de bois en rond, comme ça, avec un cercle de fil de fer en général. Alors, le fagotage dans la répression russe, c'est on met des gens, des citoyens, des hommes en général, mais je sais pas, enfin bon, en rond comme ça, on les attache, ils sont dos à dos, le dos vers l'intérieur du cercle, et on les attache ensemble, et au milieu, on met une charge de dynamite, et on met une mèche très longue, et on allume la mèche au bout, de façon à ce qu'ils voient arriver l'étincelle jusqu'à eux. Et puis après, ça fait boum, et ils sont volatilisés. Sympa?
Quelle atrocité.
Sympa, hein? Voilà, fagotage. Ça m'avait profondément choqué. Je n'ai pas assisté à un, mais j'ai vu très peu de temps après les effets du souffle de l'explosion, des morceaux dispersés, enfin, assez violemment dégueulasse. Voilà, et maintenant il y a Monsieur Kadyrov, Radirov, qui s'amuse avec son peuple, avec la connivence de Moscou, avec Grozny a été reconstruite, ça c'est vrai, mais bon, l'ambiance est plutôt très glauque. Je crois que pour la Tchétchénie,
Et dans quelles conditions vous avez opéré là-bas, les conditions habituelles,
Oui,
c'est-à-dire...
enfin ils étaient très doués pour faire des hôpitaux, pour les maintenir dans les montagnes. C'était très bien organisé. C'était rudimentaire, mais très bien organisé. Voilà, Tchétchénie, peuple martyr.
Et l'année précédente, les Rwanda, en 94.
Ah oui, alors avril 94, le Rwanda, l'horreur. Les journalistes avaient bien fait leur travail. Ça leur arrive quand même aux journalistes de bien faire leur travail. Et on avait tout de suite été informés du génocide, du début du génocide. Il n'y avait pas moyen de ne pas comprendre ce dont il s'agissait. On voyait les routes avec des cadavres sur les côtés. Il y avait eu cette histoire des casques bleus belges qui avaient été pris et exécutés. Enfin bon. Et les ONG n'arrivaient pas à se bouger parce que il y avait une représentation pour toute l'Europe qui se trouvait à La Haye, en Hollande, et qui était difficile à joindre. Et les ONG disaient, mais Médecins sans frontières, autant que Médecins du monde, disaient, ah, il faut un feu vert de La Haye pour pouvoir partir, etc. Et à un moment, je trouvais ça insupportable. J'ai grimpé sur le bureau de la fille qui était responsable du desk Rwanda. J'ai pris un feutre et j'ai écrit directement sur le mur la date du jour où on était et Action MDM Rwanda égale zéro. On est parti le lendemain. On était les premiers. C'était une des rares fois où MDM est allé plus vite que MSF. On est arrivés les premiers. On a été pris en charge par le Front patriotique rwandais en Ouganda, à Entebbe même, et ils nous font passer la frontière et ils nous amènent visiter différents sites où on pouvait installer des hôpitaux, voilà. Et c'était des pistes avec des grands trous, des creux, des bosses. C'était pas facile comme route. On arrive à un endroit, je trouve pas ça très bien. Un deuxième, pas non plus. Et la nuit commence à tomber. Et bon, et on arrive à un troisième endroit qui s'appelait Gahini. Et là, c'était parfait. C'était parfait. C'était un hôpital colonial belge qui avait été très peu détruit. Il se trouve que c'était le bâtiment administratif qui s'était pris un obus, je sais pas pourquoi. Donc les papiers avaient volé partout, mais moi j'avais pas besoin des papiers. Et le reste, les pavillons étaient entiers, etc. Et surtout, il y avait des centaines de blessés qui étaient restés là. Alors pourquoi ils étaient restés là? Parce que c'était un hôpital, parce qu'il y avait un toit au-dessus. Et il restait avec eux deux infirmiers, ce qui n'est pas beaucoup quand même pour des centaines de blessés. Évidemment, pas de médecin et deux infirmiers qui restaient là. Bon. Et là, je dis, c'est bien. Allez, on s'installe, ce sera ça notre hôpital. Gahini, l'endroit. Et je fais le tour, il y avait des centaines de blessés, coupés à la machette. Bon. Il faut rappeler les chiffres admis, enfin qui font consensus sur le génocide. Alors, quand on dit génocide au Rwanda, c'est un peu léger, hein. Je crois qu'il vaut mieux dire, c'est ce que disent les associations de survivants, il vaut mieux parler du génocide des Tutsis au Rwanda, hein. Il y a eu des Hutus massacrés avec eux parce qu'ils étaient vaguement sympathisants des Tutsis, mais c'est quand même le génocide des Tutsis au Rwanda en 94. Il faut admirer l'efficacité de ce génocide qui avait été préparé des mois en amont, avec cette morbide et funeste radio des Mille Collines qui disait qu'il traitait les Tutsis de cancrelats à écraser. Il faut vraiment les éliminer. Et c'est toujours pareil, que ce soit les nazis avec la Shoah ou bien là. Il faut déshumaniser l'adversaire. À ce moment-là, on peut lui marcher dessus, lui cracher dessus, l'ouvrir en deux, le mettre en camp de concentration, le faire cramer dans les crématoires. Enfin, puisque c'est plus un humain, une fois qu'on l'a déshumanisé. Et l'argumentaire de la radio Mille Collines, ce sont des cancrelats dont il faut se débarrasser. Ça a bien marché, hein, puisque le chiffre qui fait consensus, c'est autour de 800 000 Tutsis. 800 000 victimes, pas que des Tutsis, mais 800 000 victimes de ce génocide en 3 mois. C'est formidable. Ils battent Hitler. Hitler, avec ses camps de concentration, on admet que c'est 6-7 millions de morts en 3 ans, quand même, avec tous les moyens de l'Allemagne en guerre. Là, des petits agriculteurs rwandais, avec juste leurs machettes, 800 000 en 3 mois, c'est une performance remarquable. À part ça, c'était l'horreur, évidemment, le Rwanda. L'hôpital était près d'un lac, je ne sais plus lequel, et il y avait des cadavres encore qui flottaient, alors qu'il y avait aussi des crocodiles. Donc les crocodiles étaient complètement rassasiés, ça veut dire. Ils n'avaient plus besoin de manger, et il y avait encore des cadavres qui flottaient. Donc on n'avait pas d'eau potable, il fallait décontaminer, etc.
Et les mouches ?
Alors les mouches, c'est pas sur le lac, c'est sur les cadavres. C'est sur les cadavres. Et assez curieusement, maintenant que vous dites ça, ça me fait penser dans mes souvenirs que les mouches, c'est surtout sur des cadavres isolés qui pourrissent depuis un certain temps. Et les grandes pyramides de cadavres étaient relativement, enfin n'étaient pas, c'est étonnant, il n'y avait pas de relation directe entre le nombre de cadavres et la quantité de mouches. Mais un cadavre isolé en train de pourrir, ça fait, comme je vous ai dit l'autre jour à propos de Saïgon, ça fait des milliers de mouches avec le bruit, le bourdonnement insupportable. Il y a l'odeur quand on est plus près, mais ça dépend du vent, l'odeur, ça dépend, mais le bruit, terrible. Et puis il y avait cette horreur des blessés que j'avais, coupés à la machette. Alors quand ils ont tué, bon, c'est désagréable, c'est pas gentil du tout de tuer ses frères humains. Mais il y avait aussi une volonté de nuire qui s'exprimait par des blessures pas mortelles, mais volontairement handicapantes à vie, comme de couper les 2 tendons d'Achille de quelqu'un. Parce que, je sais pas si vous savez, mais la rupture du tendon d'Achille en France ou aux États-Unis, enfin dans un pays bien équipé au plan sanitaire, c'est déjà une affection embêtante, ou bien on opère, mais de toute façon, il faut mettre le pied, ce qu'on appelle en équin, c'est-à-dire le pied presque dans le prolongement de la jambe, comme ça, et puis plâtré, et ça pendant plusieurs semaines. Et évidemment, au Rwanda, aucune chance. Hein. D'abord, c'était une lésion ancienne, donc le muscle avait tiré, et donc le tendon était très loin, enfin, aucune chance que ça cicatrise. Et de toute façon, on met pas un plat sur une plaie ouverte avec la chaleur du Rwanda, etc., etc. Ouais, Rwanda. Ça, l'histoire. On aurait peut-être dû parler du Libéria.
Allez-y, je vous en prie.
Le Libéria, c'est important, hein. Ça m'avait frappé, le Libéria, par le non-sens absolu que c'était. Je veux dire, c'est un pays non pétrolier, il n'y a pas de diamants, il y a des diamants dans pas mal d'endroits autour, il semble qu'il n'y ait pas de diamants au Libéria même, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas grand-chose. Ils peuvent faire pousser ce qu'ils veulent, je crois que l'agriculture ça marche, mais vraiment c'est un pays sans grand intérêt économique, de sous-sol, de ceci, de cela. On fait pousser de l'EVA au Libéria. Il y avait la plus grande plantation d'EVA du monde, qui était la plantation Firestone autrefois, et qui venait d'être vendue aux Japonais sous la forme Bridgestone. Et c'est des centaines d'hectares, des milliers d'hectares. C'est peut-être le quart d'un département français, la plantation elle-même. Et on s'était installé d'ailleurs dans l'infirmerie de la plantation, qui était très bien organisée pour les travailleurs de l'EVA. Ce qui était fou, c'était le non-sens absolu de ça. Le mal que peut faire un fou complètement amoral et sanguinaire, sans aucun scrupule, comme Charles Taylor, c'est un fléau terrible, un type comme ça. Et moi, j'ai assisté, je suis allé deux fois au Liberia pendant la guerre, et j'ai assisté notamment à la bataille de Monrovia. C'était hallucinant. Les troupes de Charles Taylor, qui étaient des gamins de 14 ans, 17 ans, oui, les enfants soldats, enfin à peine plus, ils montaient à l'assaut avec leurs déguisements. Les déguisements, c'était ce qu'ils avaient pillé dans les maisons des Occidentaux qu'ils avaient raflé. J'en ai vu monter à l'assaut en robe de mariée, en costume de plongée sous-marine, avec des palmes aux pieds, monter à l'assaut avec des palmes aux pieds et un tuba sur la figure, déguisement, etc. Pas tous, hein, mais surréaliste. Et surtout, aucune idée d'efficacité, de bataille et tout. Ils étaient beaucoup plus nombreux, ils avaient beaucoup plus d'armement. Donc, on y allait le matin. Ils étaient entretenus à la bière, au chanvre, à la bière, complètement shootés. Et on va à l'assaut. Et ils rafalaient. Tous les murs, les fenêtres, tout ce que... Bon, ils rafalaient. Et les soldats du président Johnson, qui étaient dans la ville même, qui essayaient de se défendre, qui avaient peu de munitions, ils tiraient au coup par coup, ils en descendaient, puis ils se repliaient comme ça. Et donc, nos troupes, puisque j'étais du côté Charles Taylor, ils m'avaient dit, il faut que tu viennes, parce qu'on va avoir des blessés là, faut que tu... Oui, d'accord, je dis, oui, bon, moi... Si vous ne me faites pas porter une arme, moi, je veux bien. Et donc, nos troupes avançaient régulièrement. Et puis, quand la nuit tombe, on s'arrête. Il ne faut pas se battre pendant la nuit, ce n'est pas dans les règles. Donc, on s'arrête la nuit. On revient au camp fêter la victoire. Donc, on reboit beaucoup de bière, d'alcool, etc. Et le lendemain matin, on repart à l'assaut. Et, oh, surprise, les soldats du président Johnson, ils avaient repris les mêmes positions. Et tous les matins, c'était une surprise. Ah, les salauds! Ils ont repris ce bâtiment de la station-service qu'on avait gagné la veille au soir. Ben oui, les gars, la veille au soir, vous l'aviez gagné, mais bon, d'accord, entre-temps, voilà. Enfin bon, un non-sens complet, une... Et puis, aussi quelque chose, entre... Je justifie rien, c'est l'horreur, la guerre, de toute façon, c'est l'horreur. Les guerres civiles, c'est pire comme guerre que les autres. On le sait, ça... Mais entre Tutsi et Hutu, qui ont vécu des siècles en bonne intelligence, mais dont la colonisation belge a envenimé les rapports, etc., au point qu'ils ont fini par se croire complètement ennemis, entre Tutsi et Hutu, il y a quand même 25 cm de différence, hein, et puis un aspect physique. Mais au Liberia, j'ai vu... Des types armés qui m'escortaient d'un point à un autre, flinguaient quelqu'un sur l'autre trottoir, comme ça, il sort son « boum ». Et je lui dis « oui, t'as sûrement raison, ça, sûrement, mais tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as flingué, lui ?» Et il répond « c'était un cru ».« Ah, d'accord, c'était un cru, alors forcément, faut les flinguer, les crus. C'est une des ethnies, les crus, voilà. Mais il y en a d'autres, et celle-là, fallait la flinguer. » Dans ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aucune différence physique. Là, c'était impressionnant comme stupidité, comme voilà, c'était les mêmes. Mais ceux-là, il fallait flinguer parce que c'était pas la bonne ethnie. Enfin bon, une histoire de fou. Voilà, le Liberia. Mais
la Syrie, Jacques Beyrès.
La Syrie, bah bien sûr, la Syrie.
Vous êtes allé plusieurs fois, trois, quatre.
Six fois en Syrie. La Syrie, je demanderai presque quelques instants de recueillement parce que c'est une horreur qui continue. On en est à 500 000 morts, sans compter 90 000 disparus qui vont pas revenir. Hein, ils sont pas partis acheter des cigarettes pour fuir leurs femmes. Hein. Ils ont disparu majoritairement dans les prisons ou dans des exécutions non documentées.
La première fois que vous êtes allé, c'était en...
C'était à Homs en janvier 2012. Homs, c'était les premiers gros bombardements qu'on montrait à la télévision avec vraiment une partie de la ville qui devenait panache de fumée, en général grise, des fois plus ocre, etc. C'est là où les journalistes sont morts, dans Homs en janvier 2012. J'étais juste en face, mais j'étais à 200 mètres, mais dans une zone pas bombardée. Et je les voyais se faire bombarder. Évidemment, je ne pouvais rien faire, il n'était pas question de traverser. Il y avait cette journaliste américaine qui est morte, qui s'appelait Mary Colvin, qui était venue me voir parce qu'on s'était rencontrés quelque part sur un terrain, je ne sais plus où, en Afrique, je crois. Et la rumeur avait dit que j'étais là. Et elle, dans un moment de répit, elle était venue me dire bonjour, ou je ne sais plus si elle m'interviewait ou si on parlait simplement. Et puis elle était retournée à l'endroit des journalistes, où elle s'est fait tuer 2, 3 jours après, en même temps que ce photographe français qui s'appelait Rémi Hochelig. À Homs, j'avais une équipe d'infirmiers extraordinaires, deux infirmiers absolument extraordinaires. Ils savaient faire des tas de choses de chirurgie. J'avais vu ça. Moi, vous savez, j'opère de moins en moins en mission, hein. Je les aide à opérer. Je crois que c'est ça qui est important, la formation.
Vous les guidez?
Oui. Et je leur dis, il faut que ce soit toi qui opères. Et ils me disent, non, non, c'est toi le grand docteur qui est venu de France pour nous aider, il faut que tu nous montres, comme si j'étais une source de lumière, d'enseignement. Bon. Je leur dis, pas du tout. Non, t'as rien compris là. C'est ton pays. C'est ta guerre, c'est ton combat, c'est ton peuple, c'est pas le mien, hein. Moi, je serai barré dans un mois au plus tard, dans 3 semaines, un mois, moi, je suis plus là, hein. Donc, c'est pas parce que je vais te montrer un gadget, un truc, une astuce, un raccourci, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que toi, tu l'as intégré, etc. C'est toi qui opères. Alors, au début, ils disent non, je dis, moi, je m'en fous, j'opère pas. Alors, on est en grève tous les deux, toi et moi. Bon, c'est un peu. Bon. Il y a des blessés, hein, qui attendent, je te signale. Donc, au bout de 5 minutes, ils disent, d'accord, je vais opérer. Donc, ils opèrent. Je leur dis, ça change rien. Moi, je suis en face. Tant que ça va, je t'aide, je te passe les instruments et tout. S'il y a un problème, je te dis, attends, s'il te plaît, on arrête 2 minutes, on va discuter ça, parce que là, tu te rapproches quand même d'un truc un peu dangereux. Ou bien, au contraire, tu prends trop de précautions, t'es trop loin, tu peux passer plus comme ça, etc. Voilà. Et ils sont ravis après. Ils sont ravis. Et, à Homs, il se trouve que j'avais deux infirmiers remarquables. Alors je leur dis, c'est vous qui opérez. Mais non, nous on est infirmiers, on peut pas, etc. Mais je m'en fous, je leur dis, vous avez des tas de compétences, vous opérez. Vous oubliez que vous êtes infirmier, on dit que vous êtes chirurgien, et vous opérez. Et j'ai commencé à les faire opérer, c'était très bien. Et alors au bout de 2 jours, je leur ai dit, bon, alors, même si je suis blessé moi, hein, c'est pas la peine d'essayer de m'exfiltrer parce que c'est très dangereux de m'exfiltrer. Vous vous rappelez juste mon groupe sanguin qui est à mon cou, hein. Vous vous rappelez juste qu'il faut, il faut me passer ça comme, et pas autre chose. Et puis, vous m'opérez, vous. Alors, ils se sont sentis valorisés comme tout. Le chirurgien français qui dit aux infirmiers, vous pouvez m'opérer si je suis blessé et tout. Voilà. Mais je fais ça toujours maintenant, depuis déjà quelques années. Je fais opérer les gens.
Donc c'est une démarche de transmission, quelque part.
Oui, c'est très important parce que c'est pas parce que je fais un truc un peu plus vite, un peu plus élégamment, on s'en fout, hein, de l'élégance. Ce qui est important, c'est que les gens soient soignés par du personnel qui va rester et qui sera, bon, etc. La Syrie, alors il y a eu Homs, après Homs, je suis allé à Idlib et je suis allé à Taftanaz. Où là, je me suis aperçu à Idlib et Taftanas que le régime détruisait systématiquement les pharmacies, les détruisait, les pillait, les détruisait, les brûlait. Ce qui s'appelle un crime contre l'humanité. Et pas seulement un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité. Parce que si les pharmacies sont détruites, ça veut dire que les malades chroniques sont plus soignés. La personne qui a une défaillance rénale, etc., les insuffisants cardiaques, Les diabétiques, enfin les maladies chroniques graves dont on peut mourir et qui ont besoin de soins et de médicaments réguliers, a plus. Et ça, c'est pas des combattants qu'on essaye de mettre au pas, hein. C'est une population civile de gens diminués, vieux, fatigués, etc., malades, qu'on pousse vraiment vers la mort en les privant des médicaments vitaux dont ils ont besoin. Crime contre l'humanité. Et à Tafanas même, la rumeur disait, la rumeur, mais tout le monde, la rumeur, c'est pas chuchoter, c'est la population de Tafanas disait que quelques jours avant, il y avait trois enfants qui avaient été brûlés vifs par les troupes de Bachar. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il le disait beaucoup. Et c'était juste, c'était 3 jours avant que j'arrive, et il y avait une zone sanctuarisée. Il y avait une zone de trottoir où on n'avait pas le droit de passer. Ils avaient mis des balustrades et des fleurs, et il fallait sortir de cette zone. C'était sanctuarisé. Et par terre, il y avait les traces d'un feu, c'est vrai, il y avait eu un feu. Alors je ne savais pas s'il y avait les gosses dans le feu, mais probablement oui, etc. Il y aurait eu trois enfants brûlés vifs, mais bon, c'est. Pour Bachar, c'est rien. La Syrie. Alors après Idlib, je suis allé à Alep. Ça, c'était en septembre-octobre 2012, Alep. J'ai eu à soigner Laurent Van der Stock. Vous connaissez, c'est un grand reporter, etc. Et il s'est pris des blessures un peu partout dans le monde.
Un photographe, n'est-ce pas?
Oui.
Ah oui, bien sûr.
Laurent
Il
Van
l'avait
der
vu plusieurs fois à France Culture.
Ouais,
Il
Laurent Van der Stock.
était primé en juillet
Ouais,
2017.
c'est ça.
Oui.
Et il m'est arrivé avec une balle dans la jambe, furieux, en disant, oh merde, je ne sais pas combien de blessures, j'ai pas le temps d'avoir encore un truc. Bah, j'ai regardé, je dis, mais c'est pas grave du tout, hein. Et voilà, j'ai enlevé la balle et il était guéri et c'était très bien.
Merci Jacques Béhez, à demain.
À demain, au revoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Dany Le Gras avec Jacques Berès. À voix nue, réalisation Delphine Lemaire, prise de son Nicolas Mathias, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.